Le journal de Thomas Nagy.
Bonsoir. Trois individus suspectés d'avoir pris part le mois dernier à des brigandages et des extorsions en nageant ont été arrêtés. Les trois malfrats sont âgés de 18 à 27 ans. Ils auraient agi à 12 reprises depuis fin novembre dans le Jura et 5 départements français. De la prison pour un ex-enseignant reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel sur enfants, déjà condamné pour des faits similaires il y a 4 ans, le ministère public n'avait alors pas jugé utile d'en avertir l'employeur. Un dysfonctionnement dénoncé par l'avocat de l'une des victimes. Haute-Saône réduira ses investissements l'année prochaine. Les autorités de la commune fusionnée ont présenté le budget 2025. Aujourd'hui, ils prévoient un déficit d'un peu plus de 750 000 francs. Les investissements ont été réduits au strict minimum. C'est un temps sec qui nous attend ce soir et cette nuit. Demain, une atmosphère venteuse s'emparera de la journée avec quelques précipitations en début d'après-midi. De la neige pourrait faire son apparition dès dimanche. Fin de cavale pour trois individus suspectés d'avoir commis des brigandages et des extorsions le mois dernier en Ajoie. Les malfrats âgés respectivement de 27, 19 et 18 ans ont été interpellés ce lundi par les autorités françaises qui ont collaboré avec le ministère public jurassien et la police jurassienne. Ils seront placés en détention provisoire. Les précisions de Raphaël Chalvera.
Le 26 novembre, trois individus ont suivi un véhicule jusqu'au parking d'une entreprise à Porrentruy. Munis d'une arme à feu, ils se sont fait remettre la voiture et ont pris la fuite. Le lendemain, les malfrats ont abordé une personne qui effectuait un retrait à un bancomat à Boncourt. Toujours avec une arme à feu, ils se sont fait remettre le code de la carte bancaire, ont retiré de l'argent et se sont enfuis à pied en France voisine. Le 30 novembre, enfin, encore à Boncourt, les trois individus se sont fait remettre un véhicule et le code d'une carte bancaire dans une station essence. Sous la menace d'une arme à feu, ils ont ensuite pris la fuite en France. Selon le ministère public jurassien, les premières investigations ont permis de découvrir que d'autres cas de brigandage contre des voitures ont été commis en France à la même période, potentiellement par les mêmes individus. Les auteurs ont été identifiés et auraient agi ensemble à 12 reprises depuis le 21 novembre dans le Jura et dans 5 départements français. La poursuite pénale diligentée par la justice jurassienne a été déléguée aux autorités françaises.
Un ancien professeur du collège de Delémont écope de 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, pour acte d'ordre sexuel avec enfant. Condamné ce matin par le juge pénal à Porrentruy pour des faits qui remontent à 2018 et 2020, l'homme était accusé d'avoir entretenu des relations sexuelles avec deux jeunes garçons hors du cadre scolaire, un mineur de 15 ans, ainsi qu'avec un élève qui fréquentait le collège de Delémont où il enseignait. Il avait déjà été condamné il y a 4 ans pour des faits similaires, mais le ministère public n'avait alors pas jugé utile d'en avertir l'employeur. Avocat de l'une des victimes, maître Charles Poupon a vertement dénoncé un dysfonctionnement de la justice dans cette affaire.
C'est regrettable, mais le prévenu avait déjà été inquiété par une première affaire. Rétrospectivement, par rapport à la condamnation pénale du prévenu, donc des actes d'ordre sexuel commis sur des enfants, sa fonction d'enseignant au collège de Delémont, à mon sens, il aurait dû à l'époque y avoir une information donnée à l'employeur. Aujourd'hui, le ministère public, à mon sens, est plus attentif à de tels cas de figure. Et puis l'essentiel, finalement, c'est que si de tels faits devaient se reproduire, qu'il y ait une sensibilité peut-être différente et que l'employeur, dans un cas tel que celui-ci, soit informé pour éviter de nouveaux problèmes avec la justice et puis de protéger surtout les mineurs.
Et autre dysfonctionnement, selon l'avocat, certains commentaires sur l'affaire parus dans la presse. Des propos de la direction du service de l'enseignement ont blessé les parties plaignantes, selon maître Poupon.
On a parlé de dérapage, on a parlé également de consentement, alors qu'on est dans un dossier où on a des actes d'ordre sexuel qui sont commis sur un enfant. Donc avec des faits tels que ceux-ci, les termes utilisés paraissent très inopportuns et ont fortement choqué mon client ainsi que sa famille. Alors je ne sais pas si elle a été minimisée, mais je pense que peut-être au départ, on n'avait pas pris la mesure de l'ensemble des faits et puis surtout au niveau de la collaboration entre les autorités, les informations, à mon avis, on aurait dû prendre beaucoup plus de précautions.
Et ni le ministère public ni la direction du service de l'enseignement n'ont souhaité réagir à ces propos. Alors que le Parlement jurassien doit voter le budget de l'État 2025 mercredi prochain, une vingtaine d'amendements ont été déposés. Certains proposent des économies supplémentaires, d'autres d'augmenter le budget de l'État par rapport au projet du gouvernement. L'un des points qui devrait faire débat touche le financement des soins à domicile. Le gouvernement veut augmenter drastiquement la participation des patients, mais une minorité de la commission le refuse. Jérémy Pignard.
C'est un débat à près de 2 millions de francs dans le budget de l'État. Pour l'alléger, gouvernement et majorité de la commission veulent faire passer la participation des patients aux soins à domicile de 5 francs jusqu'à 15,35 francs par jour. Le Parti socialiste notamment s'insurge contre une mesure qui dépasse largement, selon lui, les limites de l'acceptable. Une personne soignée à domicile 7 jours sur 7 pourrait voir sa facture annuelle augmenter de plus de 3 700 francs. Des milliers de jurassiens se retrouveraient dès janvier face à des charges supplémentaires, dénonce le groupe socialiste qui avance qu'aucun canton roman n'a instauré une telle pratique. L'amendement demande donc le maintien de la quote-part du patient à 5 francs, ce qui alourdirait le budget de plus de 1,9 million. Toujours sur les soins à domicile, une autre minorité de la commission représentée par l'UDC Romain Cher demande de réduire la partie aide de la Fondation d'aide et soins à domicile pour une économie finale de 82 500 francs.
Et autre proposition qui pourrait faire débat, celle d'augmenter l'indexation des salaires du personnel de l'État de 1,26% au lieu de 0,58%, mesure qui aurait pour effet d'alourdir le budget de près de 2,4 millions de francs. La compétence d'adaptation des traitements au coût de la vie appartient cependant au gouvernement et il faudrait modifier la loi pour que le Parlement puisse contraindre l'exécutif dans ce domaine. Haute-Saône limitera ses investissements en 2025. Les autorités ont présenté les prévisions comptables de la commune mixte aujourd'hui à la presse. Cette mouture 2025 table sur un déficit d'environ 750 000 francs. Un résultat obtenu sans prélèvement sur la réserve pour politique budgétaire, alors qu'en 2024, le budget prévoyait un déficit de 1,8 million de francs avec un prélèvement de 400 000 francs dans la réserve pour politique budgétaire. C'est donc un budget bien meilleur que le précédent sur lequel le Conseil général se penchera lundi. Pascal Crétin, conseiller communal en charge des finances.
Ce budget, il est le fruit de longues discussions qu'on a eues au niveau de l'exécutif. C'était aussi une volonté de l'exécutif d'essayer de présenter un budget qui s'approche de zéro, même si ce n'est qu'un budget. Un budget, il est là, c'est pas parce qu'on a un budget de dépenses qu'on doit procéder aux dépenses, mais ce budget, il donne quand même une ligne directrice qui est claire.
Il y a une chose notable quand même, c'est par rapport aux investissements. Les investissements sont budgétisés à hauteur d'1,8 million de francs à peu près, quasiment autofinancés à 100%. Vous avez dû les réduire quand même au strict minimum.
Absolument, ça c'était aussi une volonté de l'exécutif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi dans la commune de Haute-Saône, le conseil communal a décidé de manière claire de ne pas augmenter les impôts, de ne pas augmenter les taxes, de ne pas augmenter les EPT. Et on a mis maintenant en place aussi une réflexion qui se base sur la capacité d'autofinancement de la commune, qui, comme c'est ce fameux cash flow, pour la calculation de 2025, nous donne un montant d'1,8 million, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis on a essayé vraiment de rester à ce niveau-là pour ne pas endetter la commune.
Le Conseil général de Haute-Saône se penchera donc lundi sur son budget 2025. L'association franco-suisse Arc Horloger a été portée sur les fonts baptismaux aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. Sa mission, assurer la préservation et la transmission des savoir-faire en mécanique d'art et en mécanique horlogère, des pratiques inscrites au patrimoine mondial immatériel de l'humanité depuis 2020. La présidence a été confiée à l'horloger et entrepreneur tramelot Richard Vaucher. Il décrit au micro de Claire Vigel la façon dont il imagine les 5 prochaines années d'Arc Horloger. Richard Vaucher.
J'aimerais pouvoir vous dire que les espèces menacées sont sauvegardées, vraiment. J'aimerais pouvoir vous dire que tout le monde a trouvé son compte. J'aimerais pouvoir vous dire qu'on a réussi à fédérer toutes les actions qui se font sur l'ensemble de cet immense territoire, hein, entre Genève et Chafouz et Bienne et Besançon, que toutes les actions qui sont liées à ces savoir-faire, à leur préservation, à leur transmission, soient fédérées et qu'on ait fait un minimum de superposition d'actions, qu'on n'ait pas perdu trop d'énergie en vain et que le résultat soit un terreau assez fertile parce que c'est les racines de notre branche économique principale, ce dont on parle, et j'aimerais que ces racines soient saines et puis qu'on puisse l'attester dans 5 ans.
Et avec la création de cette association, les pouvoirs publics des deux côtés de la frontière ont transmis les rênes aux acteurs du terrain, artisans, manufactures, centres de formation ou musées. Une formule magique pour démarrer l'année en musique. Le nouveau spectacle de l'ensemble de cuivre jurassien s'intitulera Abracadabras. Il sera joué au Théâtre du Jura les 17, 18 et 19 janvier. Avec la magie comme thème principal, le magicien biennois Christopher Borer s'intégrera dans la prestation de l'orchestre jurassien, tout comme la pianiste à joulotte Jessica Marquis. Nouveauté de la version 2025, l'ensemble B de l'ECJ est intégré et le nouveau directeur est invité. Il s'agit du Valaisan Aurélien Darbelay qui explique qu'un tel projet nécessite une organisation très précise.
Moi, j'aime beaucoup ce genre de projet. Ça change beaucoup pour moi de devoir travailler efficacement sur 5, 6, 7 répétitions, pas tellement plus. Il faut agir vite, il faut savoir exactement ce que tu veux, comment tu le veux, et puis apprendre vite aussi à connaître les gens, à savoir comment travailler avec eux. Ça demande beaucoup de travail aux musiciens individuellement chez eux, c'est sûr, un travail sérieux et constant. Et puis pour eux aussi, nous, en tant qu'organisateurs, donc soit Jessica au piano, soit Christophe à la magie, c'est vrai que c'est pour nous aussi des heures de réflexion. Pour moi, c'est beaucoup de planification aussi, de répétition. J'ai 6 répétitions, il faut qu'à chaque fois je sache exactement où aller.
C'est un roman entre réalité et fiction pour évoquer la lutte contre la création d'une place d'armes aux Franches Montagnes. Vincent Vermeil a présenté aujourd'hui son livre intitulé « Place d'armes » et publié aux éditions D plus P. L'ancien maire de Seignelégier s'appuie sur des faits historiques pour y plonger Serge, un personnage fictif qui va vivre l'incendie de la ferme sous la côte en 1963 avant de devenir militant. L'élaboration de ce roman a germé plus de 20 ans dans l'esprit de Vincent Vermeil.
Il y a longtemps que j'ai cette idée en tête, et depuis plusieurs années, j'ai rencontré des gens, des acteurs vraiment de cette histoire-là. Il y a même plus de 20 ans que j'ai commencé ça. Donc ces acteurs qui m'ont raconté, qui ont apporté des témoignages, pour la plupart sont aujourd'hui décédés. Alors je me dis qu'heureusement qu'à l'époque, j'ai pris le temps de recueillir ces témoignages qui m'ont servi pour décrire un peu tous ces événements.
Et il y a aussi cette idée que la flamme du militantisme ne s'éteint jamais vraiment.
Oui, ben, il y a aussi ça, parce que je pense que les anciens qui liront ça, ils se diront, ben, ils se retrouveront. Mais c'est aussi adressé aux jeunes qui n'ont aucune idée de ce qui s'est passé par rapport à ce comité d'action, par rapport à ce combat contre la place d'armes. Et puis c'est aussi un mouvement d'histoire qui, pour la jeune génération, peut être aussi une forme un peu plus agréable à lire qu'un simple documentaire.
Vincent Vermeil qui répondait à Nicolas Meusy. Un entretien complet est à retrouver sur notre site rfj.ch. Et dans l'actualité à l'étranger, ce coup de tonnerre en Roumanie, la Cour constitutionnelle a annulé les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 24 novembre. Une élection qui s'est tenue sur fond de suspicion d'ingérence russe. Contre toute attente, le candidat pro-russe était arrivé en tête. La Cour a ordonné la tenue d'un nouveau scrutin. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée.